Madame Guillon, chapitre quatrième. Voix passive en foi. Premier degré. Pour les âmes du troisième degré, ou de cette troisième voix, que dirons-nous, sinon que ce sont comme des torrents qui sortent des hautes montagnes? Elles sortent de Dieu même, et elles n'ont pas un instant de repos qu'elles ne soient perdues en lui. Rien ne les arrête. Aussi ne sont-elles chargées de rien. Elles sont toutes nues et vont avec une rapidité qui font peur aux plus assurés. Ces torrents coulent sans ordre, çà et là, par tous les endroits qu'ils rencontrent, propres à leur faire passage. Ils n'ont ni leur lit régulier, comme les autres, ni leur démarche dans l'ordre. Vous les voyez courir par tout ce qui leur fait passage, sans s'arrêter à rien. Ils se brisent contre les rochers, ils font des chutes qui font bruit. Ils se salissent quelquefois, passant par des terres qui ne sont pas solides. Ils les entraînent à cause de leur rapidité. Quelquefois, ils se perdent dans des fonds et dans des abîmes où il y a bien de l'espace sans les retrouver. Enfin, on les revoit un peu paraître, mais ce n'est que pour se mieux précipiter de nouveau dans un nouveau gouffre, et plus profond et plus long. C'est un jeu de ces torrents, de se montrer et de se perdre, et de se briser contre des rochers. Leur course est si rapide que les yeux ne la discernent pas. Ce n'est qu'un certain bruit général, confus et ténébreux. Mais enfin, après bien des précipices et des abîmes, après avoir été bien battus des rochers, après s'être bien perdus et retrouvés, ils rencontrent la mer, où ils se perdent heureusement pour ne jamais se retrouver. Et c'est là où, autant que ce torrent a été pauvre, vil, inutile et dépouillé de marchandises, autant est-il enrichi admirablement. Car il n'est pas riche de ses propres richesses, comme les autres rivières, qui ne contiennent qu'une certaine quantité de marchandises, ou certaines raretés. Mais il est riche des richesses de la mer même. Il porte sur son dos les plus gros navires. C'est la mer qui les porte, et c'est lui, parce qu'étant perdu en la mer, il est devenu une même chose avec la mer. Il est à remarquer que le fleuve, ou torrent, ainsi précipité dans la mer, ne perd pas sa nature, quoique il soit si changé et si perdu qu'on ne le connaisse plus. Il est toujours ce qu'il était, mais son être est confondu et perdu, non quant à la réalité, mais quant à la qualité, car il prend tellement la qualité de l'eau marine que l'on ne voit plus rien qui lui soit propre. Et plus il s'abîme, s'enfonce et demeure dans la mer, plus il perd sa qualité pour prendre celle de la mer. À quoi n'est pas propre, alors, ce pauvre torrent? Sa capacité est sans borne, puisqu'elle est celle de la mer même. Ses richesses sont immenses, quoique il n'en possède aucune, puisqu'elles sont celles de la mer même. Il est alors capable d'enrichir toute la terre. Ô heureuse perte, qui te pourrait décrire? Et le gain qu'a fait ce fleuve inutile et propre à rien, méprisé et appréhendé, qui était un étourdi, à qui l'on osait confier le moindre bateau, puisque, ne pouvant se conserver soi-même, et se perdant si souvent, il l'aurait abîmé avec lui. Que dites-vous du sort de ce torrent, ô grande rivière, qui coulait avec tant de majesté, qui êtes la joie et l'admiration des peuples, qui vous glorifiez dans la quantité des marchandises étalées sur votre dos? Le sort de ce pauvre torrent, que vous regardiez avec mépris, ou du moins avec compassion, qui était le rebut de tout le monde, qui paraissait n'être propre à rien, qu'est-il devenu, et à quoi est-il propre à présent, ou plutôt, à quoi n'est-il pas propre? Qu'est-ce qu'il lui manque? Vous êtes à présent ses servantes, puisque les richesses que vous portez sont, ou pour le décharger de celles dont il abonde, ou pour lui en porter de nouvelles. Mais avant que de parler du bonheur d'une âme ainsi perdue en Dieu, il faut commencer par l'origine, et ensuite poursuivre par degrés. L'âme, comme il a été dit, étant sortie de Dieu, a une pente continuelle à retourner en lui, parce que, comme il est son principe, il est aussi sa dernière fin. Sa course serait infinie si elle n'était interrompue ou empêchée, ou tout à fait arrêtée par le péché et l'infidélité continuelle. C'est ce qui fait que le cœur de l'homme est dans un perpétuel mouvement et ne peut trouver de repos qu'il ne soit retourné à son principe et à son centre qui est Dieu. Semblable au feu qui, étant éloigné de sa sphère, est dans une agitation continuelle, il ne trouve son repos que lorsqu'il y est retourné. Et c'est là que par un miracle naturel, cet élément si actif de lui-même, qui consume tout par son activité, est dans un repos parfait. Ô pauvres âmes qui cherchez du repos dans cette vie, vous n'en trouverez jamais qu'en Dieu. Tâchez d'y entrer, et c'est là où toutes vos pentes et peines, vos agitations et anxiétés seront réduites dans l'unité du repos. Il est à remarquer que plus le feu s'approche de son centre, plus aussi approche-t-il du repos, quoique sa vitesse pour y retourner augmente. Mais sitôt qu'aucun sujet ne le retient plus, aussitôt il s'élance en haut avec une vitesse incroyable, qui augmente à mesure qu'il approche. Quoique sa vitesse augmente, son activité diminue. Il en est de même d'une âme. Sitôt que le péché ne la retient plus, elle court d'une manière infatigable pour retrouver Dieu. Et si, par impossible, elle était impeccable, rien n'empêcherait sa course, qui serait si prompte qu'elle y arriverait bientôt. Mais aussi, plus elle approcherait de Dieu, plus sa course redoublerait, et plus cette même course deviendrait paisible. Car le repos, ou plutôt la paix, puisque ce n'est pas alors repos, mais une course paisible, augmenterait, de sorte que la paix redoublerait la course, et la course augmenterait la paix. Ce qui fait le trouble alors, ce sont les péchés et les imperfections, qui arrêtent pour quelque temps la course de cette âme, ou plus ou moins selon la grandeur de la faute. Alors l'âme sent très bien son activité, comme si, lorsque le feu remonte à sa sphère, il rencontrait quelques obstacles, comme quelques morceaux de bois ou de paille. Il reprendrait sa première activité pour consumer cet obstacle ou entre deux. Et plus l'obstacle serait grand, plus son activité redoublerait. Si c'était un morceau de bois, il faudrait une plus longue et plus forte activité pour le consumer. Mais si ce n'était qu'une paille, en un moment elle serait consumée. Il n'arrêterait que très peu sa course. Vous remarquerez que cet obstacle, que le feu rencontrerait, ne servirait qu'à augmenter sa course et qu'à lui donner un nouvel empressement de surmonter tous ces obstacles pour s'unir à son centre. Il est à remarquer encore que plus le feu rencontrerait d'obstacles et plus les obstacles seraient considérables, plus il retarderait sa course. Et s'il s'en trouvait incessamment et toujours de nouveau, ce serait autant de sujets qui le tiendraient attaché et l'empêcheraient de retourner d'où il est sorti. On voit par expérience que si on donne toujours du bois au feu, vous l'arrêterez toujours et l'empêcherez de jamais remonter en haut. Il en est de même des âmes. Leur instinct et pente naturelle les portent à Dieu. Elles courraient sans cesse incessamment, sans jamais s'arrêter dans leur course, si ce n'étaient les empêchements qu'elles rencontrent. Ces empêchements sont les péchés et les fautes, qui mettent d'autant plus d'obstacles à leur retour à Dieu qu'ils sont forts et de durée. En sorte que, si elles pêchent incessamment, elles demeurent arrêtées sans jamais arriver, et si elles meurent en péché, elles sont hors d'état pour jamais d'arriver, n'étant plus en voie et en course, et tout étant terminé pour elles. Les autres qui meurent dans un autre empêchement moindre, qui est le péché véniel, vont dans le feu du purgatoire achever de consumer ce que le feu de l'amour n'a pas consumé en cette vie. Et les autres avancent, autant ou plus ou moins, que ces obstacles qu'elles se fournissent elles-mêmes sont plus ou moins forts. Les autres âmes qui n'ont jamais péché mortellement doivent donc beaucoup plus avancer que les autres. Cela est vrai pour l'ordinaire, mais cependant, il semble que Dieu prenne plus de plaisir à faire abonder ses miséricordes où le péché a plus abondé. Je crois qu'une des causes de cela qui est dans les âmes qui n'ont pas péché vient de ce qu'elles ont une estime extraordinaire de leur propre justice en tous les chefs où elles s'éteignent. Si elles sont vierges, elles sont idolâtres de leur pureté, et ainsi du reste. Et cette attache, estime ou amour désordonné de leur propre justice est un obstacle plus difficile à surmonter que les plus gros péchés, à cause que l'on ne peut point avoir une attache si forte au péché qui soit si hideux d'eux-mêmes comme on en a en sa propre justice. Et Dieu, qui ne violente pas la liberté, laisse jouir ses âmes à leur plaisir de leur sainteté, pendant qu'il prend ses délices à purifier la boue des plus misérables. Et pour réussir dans son dessein, il donne un feu et plus fort et plus ardent, qui consume par son activité ses grosses fautes, plus facilement qu'un feu plus léger ne consume les plus légers obstacles. Il semble même que Dieu prenne plaisir à faire de ses âmes criminelles le trône de son amour, afin de faire voir son pouvoir, et comment il peut consommer et rétablir en son premier état cette âme défigurée, et même la rendre plus belle que celle qui n'a pas été salie. Ces âmes donc qui ont péché et pour lesquelles j'écris, laissant les autres à part, trouvent avoir un grand feu qui consume en un moment tous leurs défauts et empêchements. Elles s'élancent avec d'autant plus de force que ce qui les retenait était plus fort et plus difficile à consumer. Elles se trouvent souvent arrêtées par des fautes notables que leurs anciennes habitudes avaient contractées. Mais ce feu les consume et passe outre, et cela tant et tant de fois, et si souvent qu'ils n'en trouvent plus. Il faut remarquer que plus il va consumant, plus il avance, et plus les obstacles qu'il rencontre sont faciles à consumer, en sorte qu'à la fin, ce ne sont plus que des pailles, qui, loin d'empêcher sa course, ne servent qu'à le rendre plus ardent. Tout ceci exposé et supposé, il est aisé d'en faire l'application et de le concevoir comme il est. Il faut donc prendre l'âme dans son premier état et poursuivre, si Dieu, qui fait écrire ces choses, que l'on ne voit qu'à mesure qu'elles s'écrivent, veut que l'on poursuive. Dieu destinant l'âme pour lui-même et pour la perdre en lui d'une manière admirable et très peu connue au spirituel ordinaire, commence par lui faire sentir intérieurement son éloignement. Sitôt qu'elle a senti et connu son éloignement, cette inclination qui est en elle de retourner à son principe et qui était comme éteinte par le péché se réveille. Alors, l'âme conçoit une véritable douleur de ses péchés et sent avec peine et inquiétude le mal que lui cause cet éloignement. Ce sentiment inquiet, ainsi mis dans l'âme, lui fait chercher les moyens de se défaire de cette peine et d'entrer dans un certain repos qu'elle voit de loin, mais qui ne sert qu'à redoubler cette inquiétude et à augmenter son désir de le poursuivre et de le trouver. Quelques-unes de ces âmes, faute d'être instruites qu'il faut chercher Dieu dans leur fond et là le poursuivre sans sortir de chez elles, se portent à la méditation et à chercher au dehors ce qu'elles ne trouveront jamais qu'au dedans. Cette méditation à laquelle elles sont, pour l'ordinaire, très peu habiles, parce que Dieu, qui désire autre chose d'elles, ne permet pas qu'elles trouvent rien en cet exercice, ne sert qu'à augmenter leur désir, car leur blessure est au cœur, et elles veulent mettre l'emplâtre au dehors. Cependant, c'est flatter leur mal, et non le guérir. Elles combattent longtemps avec cet exercice, et leur combat redouble leur impuissance. Et si ces âmes, dont Dieu prend soin lui-même, ne rencontrent quelqu'un qui leur fasse connaître qu'elles prennent le change, elles perdront leur temps et le perdront autant de temps qu'elles demeureront sans secours. Mais Dieu, tout plein de bonté, ne manque pas de leur faire trouver, par providence, ce secours, quand ce ne serait qu'en passant et pour quelques jours. Ce secours n'est point recherché par elles, quoique elles sentent bien ce qui leur manque, sans deviner le remède, mais par un pur effet de la providence, elles le trouvent sans le chercher, car, comme elles sont proprement les vrais enfants de providence, Dieu leur fait trouver, sans rien d'extraordinaire, ce dont elles ont besoin, mais comme tout naturellement. Lors donc que ces âmes sont instruites par quelqu'un que la Providence leur envoie, qu'elles n'ont garde d'avancer parce que leur blessure est au-dedans et qu'elles veulent guérir le dehors, lorsqu'on les fait retourner au-dedans d'elles-mêmes et chercher dans le fond de leur cœur ce qu'elles cherchent inutilement au dehors, alors ces pauvres âmes éprouvent avec un étonnement qui les ravit et les surprend tout ensemble qu'elles ont au-dedans d'elles-mêmes un trésor qu'elles cherchaient si loin. Elles se pâment de joie dans leur liberté nouvelle. Elles sont toutes étonnées que leur raison ne leur coûte plus rien et que plus elles se concentrent, s'enfoncent et s'abîment en elles-mêmes, plus elles goûtent un certain je ne sais quoi qui les ravit et les enlève, et elles voudraient toujours aimer et s'enfoncer ainsi. Vous remarquerez, s'il vous plaît, que ce qu'elles goûtent, quelque délicieux qu'ils paraissent, si elles sont destinées à la pure foi, ne les arrête pas, mais les porte par là même à courir après je ne sais quoi qu'elles ne connaissent pas. L'âme n'est plus qu'ardeur et qu'amour. Elle croit déjà être en paradis, car ce qu'elle goûte au-dedans étant infiniment plus doux que toutes les douceurs de la terre. Elle les quitte sans peine et quitterait tout le monde pour jouir un moment dans son fond ce qu'elle expérimente. Cette âme s'aperçoit donc que son oraison devient quasi continuelle. Son amour augmente de jour en jour et il devient si ardent qu'elle ne le peut contenir. Ses sens se concentre si fort et le recueillement s'empare tellement de toute elle-même que tout lui tombe des mains. Elle voudrait toujours aimer et n'être point interrompue. Et comme l'âme en cet état n'est pas assez forte pour ne se point dissiper par les conversations, elle les fuit et les craint. Elle voudrait toujours être en solitude et toujours jouir des embrassements de son bien-aimé. Elle a au-dedans d'elle un directeur qui ne lui laisse prendre de plaisir à rien et ne lui laisse pas faire une faute sans la reprendre fortement et sans lui faire sentir, par ses froideurs, combien la faute lui déplaît. Ces froids de Dieu dans les fautes sont à l'âme des pénitences plus terribles que les plus grands châtiments. Elle est reprise d'un regard inutile, d'une parole précipitée. Il semble que Dieu n'ait d'autre soin que de corriger et de reprendre cette âme et que toute son application soit pour sa perfection. Elle est elle-même étonnée, et les autres aussi, de voir qu'elle a plus changé en un mois par cette voie, même en un jour, qu'en plusieurs années par l'autre voie. Ô Dieu, il n'appartient qu'à vous de corriger et de purifier les âmes. L'âme est instruite de toutes les mortifications sans en avoir jamais entendu parler. Si elle pense manger quelque chose à son goût, elle est retenue comme par une main invisible. Si elle va dans un jardin, elle n'y peut rien voir, pas même retenir une fleur, ni la regarder. Il semble que Dieu ait mis des sentinelles à tous ses sens. Elle n'ose entendre une nouvelle. C'est alors qu'elle peut dire ces paroles. Qu'elle est entourée de haies et d'épines. Car si elle veut prendre quelque essor, elle se sent piquée au vif. Elle voudrait alors, principalement dans le commencement, se consumer d'austérité. Il semble qu'elle ne tient plus à la terre, tant elle s'en sent détachée. Ses paroles ne sont que feu et flamme. Dieu a encore une autre manière de punir cette âme, mais c'est lorsqu'elle est plus avancée. C'est qu'il se fait sentir à elle plus fortement et amiablement, après sa chute. Alors la pauvre âme est abîmée de confusion. Elle aimerait mieux le châtiment le plus rude que cette bonté de Dieu après sa chute, qui l'a fait mourir et abîmée de confusion. Alors l'âme est si pleine de ce qu'elle sent qu'elle en voudrait faire part à tout le monde. Elle voudrait apprendre à tout le monde à aimer Dieu. Ses sentiments pour lui sont si vifs, si purs et si éloignés de l'intérêt que les directeurs qui l'entendraient parler, s'ils n'étaient pas expérimentés dans ses voies, la croiraient au sommet de la perfection. Elle est féconde en belles choses qu'elle couche par écrit avec une facilité admirable. Ce sont des sentiments profonds, vifs et intimes. Il n'y a plus de raisonnement ici, mais rien qu'amour, le plus ardent et le plus fort. L'âme, durant le jour, se sent saisie et prise par une force divine qui la ravit et la consume, et la tient jour et nuit, sans savoir ce qu'elle fait. Ses yeux se ferment d'eux-mêmes, elle a peine à les ouvrir. Elle voudrait être aveugle, sourde et muette, afin que rien n'empêchât sa jouissance. Elle est comme ces ivrognes qui sont tellement pris et possédés du vin qu'ils ne savent ce qu'ils font et ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Si ces personnes veulent lire, le livre leur tombe des mains et une ligne leur suffit. À peine en tout un jour peuvent-elles lire une page, quelque assiduité qu'elles y donnent. Ce n'est pas qu'elles comprennent ce qu'elles lisent, elles n'y pensent pas. Mais c'est qu'un mot de Dieu ou l'approche d'un livre réveille ce secret instinct qui les anime et brûle, en sorte que l'amour leur ferme et la bouche et les yeux. C'est ce qui fait qu'elles ne peuvent dire des prières vocales, ne les pouvant prononcer. Un « pater » les tiendrait une heure. Une pauvre âme qui n'est pas accoutumée à cela ne sait ce que c'est, car elle n'a jamais rien vu ni ouï de pareil, et elle ne sait pourquoi elle ne peut prier. Cependant, elle ne peut résister à un plus puissant qui l'enlève. Elle ne peut craindre de mal faire ni ne s'en met en peine, car celui qui la tient ainsi liée ne lui permet ni de douter que ce ne soit lui qui la tient ainsi liée, ni de se défendre. Car si elle voulait faire effort pour prier, elle sent que celui qui la possède lui ferme la bouche et la contraint par une douce et aimable violence de se taire. Ce n'est pas que la créature ne puisse résister et parler avec effort, mais outre qu'elle se fait une grande violence, c'est qu'elle perd cette paix divine et sent bien qu'elle se dessèche. Il faut donc que cette âme se laisse mouvoir au gré de Dieu et non à sa mode. Et si on a alors un directeur qui n'est pas expérimenté et qui oblige cette âme à prier vocalement, outre qu'il lui fait souffrir une gêne très grande, il lui fait un tort irréparable. C'est alors que l'âme a un désir de souffrir si véhément qu'il la fait languir et mourir. Elle voudrait payer pour les péchés de tout le monde et satisfaire à Dieu. C'est alors qu'elle commence à ne pouvoir gagner les indulgences et l'amour ne lui permet pas de vouloir abréger les peines. L'âme en cet état croit être dans le silence intérieur parce que son opéré est si doux, si facile et si tranquille qu'elle ne l'aperçoit plus. Elle croit être arrivée au sommet de la perfection, et elle ne voit rien à faire pour elle que de jouir du bien qu'elle possède. Ce degré dure longtemps et va peu à peu s'augmentant, et très souvent, il y a des âmes qui ne le passent pas, et qui y sont toute leur vie, lesquelles ne laissent pas d'être des saints et l'admiration de tous les hommes. L'âme a dans ce degré certaines sécheresses passagères et courtes qui ne la tient pas de son degré, mais qui servent à l'avancer. Ces âmes, cependant si brûlantes et si désireuses de Dieu, commencent à se reposer en cet état et à perdre insensiblement l'activité amoureuse qu'elles avaient pour courir après Dieu, se contentant de leur jouissance qu'elles croient être Dieu même. Et c'est un malheur pour elles irréparable que ce repos et cette cessation qu'elles font de leur course. Si Dieu, par une bonté infinie, ne les tirait au plus vite de cet état pour les faire passer dans celui qui suit. Mais avant d'en parler, il faut dire les imperfections de ce degré.